L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Kensington Palace, à Londres, entre Notting Hill et Westminster. La nuit se dissipe sans un nuage et le soleil souverain commence à se hisser à l'horizon. Demain, l'été régira officiellement le monde pour un trimestre. Le géant de pierre, depuis des années, est le lieu de résidence d'une partie de la famille royale d'Angleterre. La duchesse de Kent est la veuve d'un des frères du roi actuel. Elle est aussi la mère de la seule héritière de la couronne. Et ce matin, au saut du lit, son serviteur le plus proche l'a informé d'une nouvelle qui vient à faire basculer sa vie tout entière. En robe de chambre, elle prend la direction des appartements de sa fille, qui doit encore dormir à point fermé. Les parquets de Kensington craquent, alors que la duchesse, le cœur battant dans les tempes, se tord l'estomac d'anxiété. Cette journée s'apprête à changer le destin de tout le royaume. Et c'est elle, comme mère, qui est ce matin la messagère. C'est d'autant plus difficile que les relations avec sa fille, depuis des années, ne cessent de se tendre. C'est donc dans une ambiance des plus particulières qu'elle pénètre dans la chambre de l'héritière du trône. Cette belle au bois dormant, encore plongée dans l'obscurité, porte un nom qui rentrera bientôt dans l'histoire. Victoria. Nous sommes le 20 juin 1837. Il est 6 heures du matin. Et c'est l'heure H de mon histoire. Ma chérie, vous devez vous lever. Brisant toutes les règles protocolaires, la duchesse de Kent ouvre les rideaux de la chambre, baignant la pièce de lumière. C'est une Victoria aux abois qui se réveille. Que se passe-t-il donc pour qu'on vienne la déranger de la sorte? La jeune princesse, qui vient d'avoir 18 ans il y a un mois, n'a aucune idée de ce qui l'attend. Mon enfant, Lord Cunningham et l'archevêque de Canterbury sont dans la pièce d'à côté. Ils veulent te voir. Victoria, interloquée, répondait plus sèchement à sa mère. Maintenant ? Ah, il faut dire qu'elle est en robe de chambre, pas du tout apprêtée. D'un signe de tête, sa mère confirme. Alors, un peu hébétée, la jeune fille se frotte les yeux. Elle entre dans son salon personnel. La duchesse lui emboîte le pas. Mais les dignitaires qui les attendent, l'air grave, sont formels. Ils veulent voir Victoria seule. La mère de la jeune fille, refoulée, se rend compte que la situation lui échappe. Elle perd déjà le contrôle. Depuis sa plus tendre enfance, Victoria est porteuse de tous les espoirs de la monarchie. Elle est devenue très jeune, l'héritière du régime, alors que son oncle a la santé fragile, tangue. La princesse, de fait, a été cloîtrée, couvée à Kensington, comme une prisonnière. Par sa mère et par l'ancien écuyer de son père. Qu'importe. Cette période-là, au milieu d'une situation qui paraît ubuesque, est en train de disparaître dans les limbes du temps. C'est Lord Cunningham qui prend la parole le premier. Votre oncle, le roi, a expiré cette nuit à 2h12. La phrase reste en suspens. C'est l'archevêque de Canterbury qui, tout en ployant le genou, annonce ce qui est suggéré depuis déjà quelques minutes. Vous voilà donc reine, votre majesté. Son homologue, lui aussi, a maintenant un genou à terre. Dans sa robe de chambre immaculée, Victoria, en l'espace d'un instant, change totalement de dimension. Elle devient, d'un claquement de doigts, la souveraine de l'un des empires parmi les plus puissants du monde. Estomaquée, prise par l'émotion, elle regarde les deux hommes, porteurs de la nouvelle d'un œil absent. défilent dans son esprit les souvenirs, heureux et malheureux, de cette enfance et de cette vie qui s'achève ici. Propulsée au rang de leader de la nation, la jeune fille embrasse un rôle pour lequel elle a été formatée des années durant. Et pourtant, l'espace d'un instant, elle doute. Elle est prise de sentiments des plus contradictoires. Mais les deux hommes, eux, sortent déjà des papiers entérinant son accession. L'archevêque, d'un trait de plume, inscrit son nom. Il était convenu que vous deveniez la reine Alexandrina Victoria. Vous êtes d'accord ? La nouvelle souveraine fait un mot. Ce nom de règne, il a été choisi par sa mère, et il ne lui convient pas. Alors, du bout des lèvres, osant à peine formuler la requête, elle impose sa première mesure officielle. Non, non, ce sera Victoria tout court. La jeune femme, en robe de chambre, devient donc reine d'Angleterre. Par là même, elle se libère enfin d'une emprise qui n'a cessé de la contraindre durant toute sa jeunesse. Sa mère, depuis qu'elle est devenue l'héritière, l'a couvée de la pire des manières. Retrouvant sa liberté, la souveraine, d'un coup de balai, compte bien envoyer aux oubliettes celles et ceux qui ont cherché à lui nuire. En premier chef de cette vengeance qui s'annonce implacable, sa mère a une cible dans le dos. Oh, elle n'est pas la seule. La jeune reine, froidement, compte bien être implacable, quitte à se mettre dès le départ dans le pétrin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour Victoria, les hostilités vont être corsées. Notre histoire commence bien des années avant ce jour fatidique qui s'apprête à changer l'histoire de tout un royaume. Nous sommes en 1830. Victoria est une jeune princesse qui vient de célébrer ses 11 ans. Au palais de Kensington, l'après-midi se termine et le dîner, déjà, s'apprête à être servi. Alors qu'elle est dans ses appartements, Victoria est assise à son bureau. Elle a les yeux dans le vague, contemple la brume qui s'installe derrière sa fenêtre. Le feu dans l'âtre à côté d'elle crépite, il fait froid, c'est l'hiver qui vient. La jeune fille depuis peu a compris qu'elle allait un jour devenir reine de son pays. Alors qu'à sa naissance, l'ordre de succession semblait en effet l'exclure de toute ambition, les affres de la vie ont redistribué les cartes. La première épreuve de sa jeune existence, elle l'a vécue alors qu'elle n'était encore qu'un nourrisson, son père Édouard. Dernier fils du roi George III, est mort en 1820, quelques mois après la naissance de sa fille. Depuis, la princesse est empreinte d'une mélancolie qui ne la quitte plus. Comment ne pas la comprendre, alors qu'elle se bat sans cesse pour chercher dans sa mémoire des souvenirs partagés avec son défunt père? Elle n'en a pas en réalité, non. Seules les peintures et les portraits lui permettent de découvrir le visage de cette figure paternelle disparue, mais c'est pas tout. À l'âge où les enfants gravitant autour de la couronne peuvent s'amuser, rire aux éclats pour elle, la donne est bien différente. Et pour cause, elle est prisonnière de sa propre situation. Dans ses primes années, la duchesse de Kent est très proche de sa mère. Mais voilà quelque temps que la jeune Victoria s'en est éloignée. En effet, lorsqu'elle a compris que sa fille allait devenir reine, la veuve a perdu pied. Pour elle, la princesse est devenue la prunelle du royaume. Impossible de risquer quoi que ce soit. Il faut la protéger, quoi qu'il en coûte. La jeunesse et la construction de Victoria, voilà un prix que la duchesse est prête à payer. Pour autant, et malgré les tensions grandissantes avec sa mère, Victoria n'est pas dupe. Tout ce cirque est la volonté d'un homme qu'elle déteste par-dessus tout. John Conroy. À peine a-t-elle pensé à lui que des pas lourds se font entendre dans le couloir. Victoria reconnaîtrait sa démarche entre mille. Ouais, c'est lui. C'est à se demander si l'homme qui pénètre dans ses appartements n'est pas capable de lire dans ses pensées. La princesse ne le salue pas. L'écuyer, lui, se plie à toutes les convenances. Il vient s'assurer qu'elle va bien, mais la jeune fille sait à quoi s'en tenir. Ce type, c'est un serpent. À la mort du père de la princesse, il s'est immiscé dans le foyer comme un poison. C'est lui qui a convaincu la duchesse de Kent de la nécessité de mettre sous protection Victoria. John Conroy est l'ancien écuyer du défunt. Il a proposé ses services à sa veuve afin de s'occuper du bon fonctionnement du palais. Il en est devenu l'intendant principal. Et depuis lors, c'est l'enfer pour la jeune fille, piégée dans le carcan du système de Kensington. Ce projet est monté de toutes pièces pour protéger la vie de l'héritière du trône, mais en réalité, tout cela n'est qu'une question d'emprise. Plus il contrôle la destinée de Victoria, et plus Conroy est influent auprès de la duchesse de Kent. La jeune fille, en tous les cas, est l'instrument de la volonté de cet homme. C'est bien simple. Elle n'est jamais seule. Partout, tout le temps, des serviteurs la suivent à la trace, lui prennent la main dans les escaliers alors qu'elle a 10 ans. Elle va tenter bien des fois de se rebeller contre ces normes particulièrement contraignantes. Mais en vain. Un conte de fées, la vie de princesse, c'est ça, hein ? Tu parles. Aucune liberté individuelle. Aucun choix dans cette existence aux allures de piège. De son hygiène à son emploi du temps, en passant par ses tenues, Victoria ne décide de rien, est dépendante de tout. Cette situation, pas loin d'être ridicule, va perdurer bien des années. Ce n'est qu'en 1837, alors qu'on vient lui annoncer au petit matin qu'elle devient la souveraine de l'Empire britannique, que Victoria est libérée, pour ainsi dire, de ses entraves. Le spectre de sa mère n'est jamais loin. Une chose, plus qu'aucune autre, va la sauver de cette emprise malsaine, sa soif d'indépendance. L'histoire de Victoria commence au palais de Kensington, où elle voit le jour en 1819. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne pouvait la préparer à prendre les rênes du royaume. En effet, son grand-père, le roi George III, a 4 fils. Édouard, le plus jeune d'entre eux, est le père de Victoria. Ainsi, ses 3 frères sont devant lui dans l'ordre de succession. Mais l'histoire peut se montrer imprévisible. Aucun des oncles de la fillette n'engendre en effet d'enfant légitime. Ainsi, pour ainsi dire, elle devient donc très rapidement la prétendante numéro 1 au trône. Son père, mort en 1820, la laisse avec sa mère. Un sacré revirement de situation qui va façonner toutes les étapes de sa construction. Comme nous venons de le voir, le bonheur des primes années s'envole lorsque la duchesse de Kent tombe sous la coupe de l'écuyer de son mari, ce John Conroy, que la jeune fille ne peut pas voir en peinture. Dans ce carcan qui l'enserre, Victoria est élevée comme une future reine. Réception, rendez-vous avec des hommes politiques qui ont parfois 40 ans de plus qu'elle, la jeune fille se retrouve propulsée au cœur du système. Là aussi, tout est orchestré et rien n'est laissé au hasard. La princesse devient une espèce de poupée que sa mère prend et range quand cela l'arrange. Enfin, du moins jusqu'en 1837. Alors qu'elle vient d'avoir 18 ans, la mort de son oncle la propulse au rang de souveraine. À compter de ce jour, il y a elle et les autres. Elle va profiter de ses nouvelles responsabilités pour repousser l'emprise de sa mère et les contraintes inhérentes à cette relation devenue depuis trop longtemps malsaine. S'impose à elle une constante qu'elle n'aura de cesse de mettre en exergue tout au long de son règne. Personne, jamais, ne pourra lui imposer quoi que ce soit. La jeune femme se retrouve aux manettes et elle compte bien les garder pour elle seule. L'apprentissage de sa nouvelle fonction va se faire avec quelques cahotements. La jeune souveraine se prend d'une très forte admiration pour son premier ministre, Lord Melbourne. La politique n'est pourtant pas de sa génération, loin de là, mais il incarne certainement une forme de figure paternelle pour elle. Mais les rumeurs, déjà, viennent empoisonner leur rapport. Partout, on dit que la jeune femme est la maîtresse du ministre. Je vous laisse imaginer le scandale. Bien que ces bruits soient répandus à tort, du moins d'après ce que nous disent les dernières études sur le sujet, ils font beaucoup de mal à la réputation de la souveraine. Il faut dire que bon nombre de dignitaires ont du mal avec l'idée de se retrouver sous l'égide d'une femme. Naïve, vulnérable et faible sont des adjectifs qui reviennent souvent pour la qualifier dans la bouche de ceux qui souhaitent voir les hommes rester à la tête du pays. Plus que tout, marquer une telle préférence politique est jugé irresponsable. Victoria a commis une grosse erreur. La tête couronnée de l'Empire, en effet, doit être impartiale. Vous l'aurez compris, elle est victime dès ses premiers mois à la tête du pays de terribles pressions, bien souvent injustes. Mais qu'importe, elle est, avant toute chose, ambitieuse, volontaire et terriblement intelligente. Ses détracteurs, c'est indéniable, ne vont pas tarder à la prendre à leurs dépens. La nouvelle reine décide de ne pas se laisser faire. Face à celles et ceux qui lui ont voulu du mal, elle est impitoyable. Peu de temps après les calomnies qu'elle a subies, elle décide d'en faire courir elle-même. Une dame de compagnie de sa mère serait enceinte de l'enfant illégitime de John Conroy, son ancien protecteur. Dans l'Angleterre puritaine, cette rumeur prend une ampleur bientôt incontrôlable. Mais rapidement, la méchanceté de la reine lui échappe. La dame de compagnie, si son ventre est gonflé, n'est pas enceinte. Non. Non, elle est hélas atteinte d'un cancer du foie et une tumeur terrible a envahi son bas-ventre. Il n'en fallait pas plus à la reine pour être vilipendée de nouveau, elle qui fut à l'origine de la propagation de la rumeur. Par voie de presse, Conroy déclare la guerre à la jeune femme. La crise qui couve est bientôt totalement hors de contrôle. D'autant que la pauvre dame de compagnie, hélas, succombe à la maladie. La reine, à bien des égards, est considérée comme responsable et traverse une période absolument épouvantable. Malgré la poudrière sur laquelle elle est assise, Victoria a l'intelligence nécessaire pour rebondir. Elle comprend que le moindre écart lui sera reproché au centuple dans cette société qui a du mal à accepter son statut de femme. Ce n'est pas la première reine à régner en Angleterre, certes, mais ses faits et gestes, plus que pour n'importe lequel de ses prédécesseurs, sont scrutés de près, de très très près même. Alors, la jeune femme va mûrir à vitesse grand V. En 1838, elle est couronnée dans un engouement absolument ahurissant. Ils sont plus de 400 000 à se rendre à Westminster. Mais ce n'est pour elle que le début de l'aventure. Victoria va devoir faire sa place, transformer la monarchie à son image et reconnecter l'institution à la population. En effet, la gronde est profonde. Les prédécesseurs de la reine n'ont pas toujours été à la hauteur, restant plus célèbres pour leurs fêtes folles que pour leur présence aux côtés du peuple. Cette volonté de remettre la monarchie au centre du jeu est donc le premier challenge pour la souveraine. Et pour cause. Il faut éviter à tout prix une révolution à la française. Il faut aussi, et l'un ne va pas sans l'autre, redorer le blason personnel de Victoria. Une partie de la population, depuis le scandale lié à la dame de compagnie, ne peut pas la supporter. Bientôt, ses conseillers n'ont plus qu'une solution en tête. Un mariage. Avant le couronnement, le dévolu des recruteurs se porte sur Albert de Saxe-Cobourg, cousin de la reine, et qui, pour l'anecdote, est le neveu de Léopold Ier de Belgique. Comme quoi les cours européennes de l'époque, plus que jamais, sont d'immenses fresques familiales. Sur tout le vieux continent, on se marie entre cousins. Pour Victoria, cette union qui pourrait ressembler à bien des égards à une corvée va en vérité devenir une étape décisive de sa vie. La souveraine, qui veut à tout prix préserver sa liberté, connaît cet Albert, qu'elle a déjà rencontré mais qu'elle juge trop jeune. C'est encore un gamin quand elle le voit pour la première fois. Mais dorénavant, elle est devenue reine. Elle doit se plier à un certain nombre de contraintes, d'autant plus avec le poids du scandale sur les épaules. Victoria se décide donc à revoir son cousin. La suite appartient à la toute grande histoire de la monarchie britannique. Nous sommes le 10 février 1840, au cœur de la chapelle royale du palais Saint-James. Ce lieu magnifique est le théâtre ce matin d'une union attendue par tout l'Empire. La souveraine sulfureuse a la réputation terrible. Autour d'une cohorte de courtisans et d'aristocrates se marie. Dans une robe immaculée absolument fantastique, Victoria est suivie de ses 9 demoiselles d'honneur, aux cheveux garnis de fleurs fraîches. Albert, lui, en tenue militaire, est subjugué. Les dignitaires et militaires du régime regardent la scène d'un œil sévère. En effet, la tension dans la société et les rangs de la noblesse est palpable. De ce mariage, assurément, dépendent le devenir et la stabilité du régime tout entier. Victoria, au bout du compte, l'a bien compris. Sa position de souveraine, c'est un fait, ne lui permet plus de mener à bien une vendetta personnelle contre sa mère, contre Conroy ou contre tout autre opposant. La vengeance n'est pas l'apanage d'une reine. Et puis son mari, moustache parfaitement taillée et cheveux légèrement bouclés, est pour elle beau comme un dieu. Elle en est tombée au premier regard lors de leur retrouvaille éperdument amoureuse. Rien n'a été fait en ce sens sous le poids de la contrainte. Cette union, elle l'appelle de ses vœux les plus profonds. Albert vient l'apaiser, contrebalancer ce caractère de feu qui l'anime et qui, à plusieurs reprises déjà, aurait pu lui jouer des tours. Cet amour qui les lie tous les deux, à bien des égards, va devenir un symbole. Les romantiques du monde entier, bientôt, se référeront à ce couple d'anthologie comme un modèle. Victoria, elle, est la grande gagnante de cette séquence de vie. Bientôt, les jeunes mariés échangent leurs vœux. L'émotion dans la chapelle royale gagne les cœurs. La jeune reine est en train, en un instant, de prendre une dimension folle. Elle devient souveraine, véritablement. Quitte sa peau de jeune femme. Voilà que par l'amour, elle vient à incarner la fonction de sa vie. Celle qui fera bientôt d'elle l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire du monde. Rien que ça. L'histoire d'amour d'Albert et de Victoria permet à la souveraine de se refaire une beauté en termes d'image. D'autant qu'elle tombe rapidement enceinte, chose rare, pour être soulignée dans les cours européennes, et ce depuis toujours, il est rare de voir des époux s'aimer sincèrement. Ce que les mariés partagent, dans le cas présent, est au-delà des convenances. Il y a entre eux une de ces alchimies qu'on ne peut pas réellement expliquer. Ces deux-là sont faits pour s'aimer. Victoria n'a aucun doute. D'ailleurs, cette véritable passion conjugale gagne tout le royaume. Les épreuves, pourtant, continuent de se dresser sur son chemin. Alors qu'elle se trouve avec son mari à Hyde Park, dans une calèche, peu de temps après son mariage, elle est victime d'une tentative d'assassinat. Cet attentat, qui ne fait heureusement aucune victime, est le signe que le vent commence à tourner. Victoria, en effet, devient petit à petit un symbole, celui de l'institution qu'elle incarne. La presse, autrefois adversaire redoutable de la souveraine, s'adoucit. Faut dire que la famille royale, maigre en nombre avant son avènement, va connaître un boom fulgurant. Le couple, en effet, en quelques années, amène à l'Empire 9 petits princes et princesses. C'est, au fond, autant une affaire d'amour entre époux qu'un calcul politique. Sa famille, avec l'apport de 9 enfants, va pouvoir peser dans toute l'Europe monarchique. C'est le temps pour Victoria de la stabilité, tant émotionnelle que politique. Les choses roulent d'elles-mêmes, entre guillemets. En France, une énième révolution provoque l'arrivée au pouvoir de Napoléon III, dont elle devient très amie. Depuis quelque temps déjà, le rapprochement entre le pays des Lumières et l'Empire britannique s'est opéré sous son patronage. C'est elle, entre autres choses, qui, dès ses premières années au pouvoir, autorise le rapatriement en France du corps de Napoléon Ier, ancien ennemi mortel de l'Angleterre. Alors, lorsqu'un Bonaparte est de retour au pouvoir à Paris, elle n'en est pas offusquée. Les relations qu'elle noue avec Napoléon III vont former le ciment de la collaboration entre les deux nations, très forte, durant le XXe siècle et ses guerres mondiales notamment. D'un point de vue personnel, Victoria décide d'installer sa tribu loin de Londres, en achetant au beau milieu de l'île de Wight le manoir d'Osborne House. Ce lieu magique deviendra sous son impulsion et celle d'Albert un véritable coin de paradis. Ce lieu de retranchement est une magnifique opportunité pour la famille de vivre aussi loin que possible de l'effervescence de la cour. Victoria, à plusieurs reprises, sera effectivement la cible d'attentats manqués. L'île de Wight, en quelque sorte, est un refuge. En phase dans la vie, les époux le sont aussi sur le devant de la scène. Victoria est une femme de son temps qui a compris dès ses premiers mois sur le trône que l'institution de la couronne a besoin d'un bon dépoussiérage afin de rester en phase avec les sujets du royaume. Sa stratégie politique, donc, va être de mettre en avant les siens plutôt qu'elle-même. Son couple, ses enfants, deviennent de véritables armes de propagande afin de détourner l'attention. Ce n'est plus tant le monarque qui fait la loi, mais la famille royale. Cette idée de clan, jusqu'à aujourd'hui, est restée dans les us et coutumes des souverains d'Angleterre. Cette modernité de ton et d'usage est aussi née sous le règne de Victoria. Mais c'est pas tout. Elle inaugure des écoles, des hôpitaux, se rapproche des gens dans le besoin. Bref, sa famille et elle prennent le pli de se montrer le plus possible et de rester chaque fois le centre de l'attention. L'une des plus grandes qualités de la reine est l'intelligence dont elle est capable lorsqu'il s'agit de comprendre les émotions et volontés de la société britannique de son temps. Le conservatisme de l'Empire britannique n'est pas une donnée qu'elle néglige. C'est aussi pour cela qu'elle met en avant sa famille et plus encore son mari. Elle a le pouvoir, mais la réussite de la communication royale dépend avant toute chose de l'alchimie des époux. Toutes ces adaptations vont porter leurs fruits. Année après année, la souveraine est de plus en plus populaire. Victoria est considérée comme une reine philanthrope et bientôt, de nombreuses œuvres lui sont dédiées. Cette période faste, durant laquelle les époux royaux vivent une existence rêvée, touche pourtant à sa fin et pour cause. Alors que le ciel semblait dégagé de toute turbulence, une catastrophe terrible va tomber soudainement sur les épaules de Victoria. Et elle ne s'en remettra pas. « 14 décembre 1861. Partout, les fêtes de Noël se préparent. L'ambiance est à la fête. L'hiver, s'il est rude, n'est pas insupportable à vivre cette année. Pourtant, dans la chambre bleue du château de Windsor, un monde s'effondre. Albert, le prince consort et grand amour de la reine, vient de s'éteindre. Sa mort fut aussi soudaine que douloureuse. Fièvre typhoïde, avait dit le médecin. Voilà 2 ans que le prince se plaignait de terribles maux de ventre. Il y a un peu plus d'un an, victime d'un accident de calèche qui aurait pu lui coûter la vie, il a fait frissonner les siens en affirmant qu'il allait bientôt mourir. Pressentiment ou non, Albert ne s'est pas trompé. Victoria a tenu la main de son époux jusqu'au bout. Elle est dévastée. Plus rien ne semble avoir de sens avec cette mort qui paraît absurde. Albert n'avait que 42 ans. Et c'est un âge pour passer de l'autre côté du voile. Pas pour Victoria, qui, las des épreuves, n'a plus aucune volonté. Elle veut disparaître. Prendre à contre-pied cette vie qui ne cesse de la tourmenter depuis des années. Ce duo iconique, que le monde entier admire, semblait invincible. Son effondrement soudain est vécu comme une véritable catastrophe. Dans la famille royale, évidemment, mais dans la société tout entière. Face au malheur, la reine va prendre une décision on ne peut plus radicale, celle de se retirer de la vie publique et de disparaître littéralement de la face du monde. Enfin, pour un temps du moins. Le monde de la reine s'est effondré au sens littéral du terme. Il lui est impensable de devoir avancer sans l'époux qu'elle chérissait avec constance depuis des décennies. Alors, elle disparaît, se retranche dans sa tanière de l'île de Wight et n'apparaît plus aux yeux du monde pendant 10 longues années. Elle, la souveraine, qui se présentait partout, que le peuple chérissait pour sa proximité, devient un fantôme. Et le public, petit à petit, année après année, se détourne d'elle. Dans les journaux, dans les rues, on ne parle plus d'elle, ou alors c'est pour annoncer son abdication proche en faveur de son fils aîné. Mais tout le monde se trompe. Si elle a besoin de guérir, Victoria est loin de vouloir abandonner sa fonction. En 1870, c'est la stupeur générale. La reine, le visage et le corps marqués par la souffrance, fait une apparition publique. She's back. Elle ne quittera plus cette fois le devant de la scène. Le public, qui pensait certainement ne plus jamais la revoir, se rapproche d'elle comme jamais auparavant, partage sincèrement sa souffrance et ses mots. En 1887, la souveraine célèbre le jubilé de son 50e anniversaire sur le trône. Elle est le 2e monarque de l'histoire à passer le cap du jubilé d'or. Elle organise pour l'occasion une véritable fête, avec des représentants venus de tout l'Empire. De très nombreux souvenirs sont fabriqués. La monarchie jamais n'a semblé aussi puissante, triomphante. Ce sentiment de succès va l'animer pour la fin d'un règne qui durera encore plus d'une décennie. À la fin de sa vie, Victoria règne sur un quart de la population mondiale. C'est si flagrant qu'une boutade dans le Londres victorien ne cesse de circuler. Victoria serait la reine d'un empire où le soleil ne se couche jamais. Pas mal, non ? Véritable femme d'État, elle a eu à gérer de nombreuses crises, avec, en frontispice, la guerre de Crimée. Elle ira jusqu'à se rendre au chevet des blessés afin de participer à l'effort guerrier. Là aussi, c'est une pionnière. Et l'Institut d'ailleurs, la Victoria Cross, à la suite du conflit. Cette décoration est aujourd'hui encore l'une des plus importantes au Royaume-Uni. Elle est aussi la souveraine permettant le passage entre 2 mondes. Elle traverse en effet les décennies parmi les plus importantes de l'histoire de l'Empire britannique. C'est elle qui, notamment, est amenée à passer les premiers appels téléphoniques longue distance de l'une de ses résidences à Londres. C'est une première dans l'histoire du monde. Lorsqu'on lui présente l'ancêtre du téléphone en 1878, elle tombe en pamoison. La reine, en retrait de la vie publique depuis 1861 et la mort de son mari, s'intéresse avec beaucoup de constance à la technologie. Cette anecdote n'en est pas vraiment une. Elle témoigne d'un phénomène très présent dans la vie de Victoria. Notre héroïne est à la tête d'un pays à la pointe durant la période fastueuse de la révolution industrielle. Et jugez plus tôt. Chemin de fer, bateau à vapeur, éclairage électrique, télégraphie, photographie et même l'invention des toilettes avec chasse d'eau. Ouais. Exit les pots de chambre, faites place à la révolution technologique. C'est notamment grâce à son appui sur le développement de la photographie qu'un cliché du duc de Wellington nous est parvenu. Vous imaginez ? Le vainqueur de la bataille de Waterloo pris en photo. Ça paraît dingue. Elle est d'ailleurs, dans le même temps, la première souveraine de l'Empire à être prise plusieurs fois elle-même en photo. La technologie de l'image devient pour la reine un formidable outil de propagande. Dans tout le royaume, les gens connaissent son véritable visage. C'est d'autant plus le cas qu'elle autorise la vente de son image dans la société. Ces photos ne tardent pas à être utilisées comme carte postale, par exemple. La reine est à la pointe de la communication. Comment alors croire que le pays, sous son règne, n'est qu'un amas d'ennuis ? La légende noire de Victoria voudrait nous faire croire qu'elle était barbante et inintéressante. Il n'y a rien de plus faux. Elle est une véritable chef d'État qui, à bien des égards, fut capable de faire basculer son royaume dans une autre dimension. Mieux, piquée par une curiosité sans cesse renouvelée, elle soutient chaque progrès qui lui est présenté. Non, Victoria ne veut pas être une spectatrice de l'histoire. Elle est bien plus que cela. Elle en est l'actrice principale. Mais malgré sa présence dans le cœur des sujets de l'Empire, Victoria n'est pas immortelle. Elle vieillit. En 1897, son jubilé de diamants permet de la mettre de nouveau à l'honneur. Mais des rhumatismes lui provoquent des boiteries lancinantes et sa vue baisse. Depuis la mort de son mari, le prince consort Albert, la reine passe ses réveillons de Noël sur l'île de Wight. C'est là qu'elle décline à l'aube de l'année 1901, avant de s'éteindre, son fils à son chevet, le 22 janvier. Elle aura régné 63 ans, 7 mois et 2 jours. C'est bien simple. Seule Élisabeth II a fait mieux dans l'histoire de la monarchie britannique. Victoria s'est éteinte à l'âge de 81 ans. Il n'est pas fin de dire qu'elle a changé l'histoire de bien des manières. En 1914, alors que le premier conflit mondial est sur le point d'éclater, l'Europe des souverains est empreinte de son sang. En effet, le tsar de Russie, l'empereur d'Allemagne et le roi d'Angleterre disposent tous d'un point commun. Lequel ? Celui d'être cousins et donc d'avoir la même grand-mère. Son nom ? Victoria. Près de 15 ans après sa mort, le continent, à bien des égards, est encore victorien. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la plus grande femme de son temps aurait répugné l'idée de la Grande Guerre et de ses millions de morts. Voilà l'une des facéties que nous apprend l'histoire, celle avec un grand H. L'héritage qu'on laisse, au fond, n'est qu'une fin de chapitre, au milieu d'un livre plus conséquent. Ce sont les suivants qui en rédigent la suite, à leur façon. Dans le cas de Victoria, ses petits-enfants, tels des gosses en quête de légitimité et d'affirmation, plongeront l'Europe dans l'obscurité, abîmant au passage le legs de leur aïeul. J'espère en tous les cas que votre regard sur la reine Victoria a changé, s'il était négatif, à la suite de notre histoire. Bien souvent, on l'imagine barbante, sans aucune saveur ou même pudibonde. Plus encore, c'est l'Empire britannique de l'ère victorienne qui est à l'image de sa souveraine. Flamboyant, insubmersible, mais impitoyable aussi. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.